La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, c'est bien d'avoir ce petit générique. Allez, on va juste faire un premier tour de table pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis, Michel, bien sûr, on vous écoutera avec attention pour votre chronique Astro numéro 126. Déjà, Michel, eh bien, ravi de vous retrouver. Hein. Certains soucis de santé, on ne va pas dévoiler votre vie privée, mais vous êtes là, tant mieux.
Voilà, pas au meilleur de ma forme. Mais
voilà, mais on est une équipe, on va tous vous porter. En tout cas, merci à Michel Favret pour cette chronique habituelle et on va parler de l'actu. Serge, bonjour, bienvenue à vous aussi, trésorier de l'association d'astronomie Vega de l'Allier, de l'Observatoire de Verre. Alors, je ne vous pose plus la question si les finances vont bien, ça j'ai fait sur la première émission.
Elles vont bien,
les mais je suis rassuré. Serge, bonjour, bienvenue aussi. Thierry Jouzoulipa, Société Astronomique de Bordeaux, l'acronyme la SAB. Bonjour, bienvenue également à Oudo Radio. Alors là, vous avez le choix entre deux micros.
Bonjour.
Entre les deux, mon cœur balance. Et Joël Vallée, Astronomie Giron 33, AG 33. Bonjour également et bienvenue.
Bonjour à vous tous.
Et petit coucou à Corinne.
Et bonjour à Corinne.
Voilà, mais c'est une équipe. Hein. C'est pas parce que Corinne vient régulièrement, elle a droit à voir d'autres occupations.
Et une petite pensée pour Denis.
Bon. Ah oui, c'est pas une belle conjoncture en ce moment, on dira ça comme ça. Mais pensez voilà à Denis qui accompagne voilà Corinne lorsqu'elle est avec nous. Allez, la chronique, on va laisser bien sûr parler nos invités tout à l'heure par rapport à l'actu, mais l'actualité. Mais là sur la chronique, on commence par les actus. Je synthétise et la disparition d'un astronaute du programme Apollo. C'est moins drôle et du coup lapsus. Désolé Michel.
Voilà. C'est à cause d'une actualité trop dense le mois dernier que je parle avec beaucoup de retard de la disparition de Jim Lowell qui s'est éteint le 7 août à l'âge de 97 ans. Il avait commencé sa carrière d'astronaute de la NASA en volant par deux fois à bord des capsules Gemini. Gemini 7 en décembre 1965 avec Frank Borman, il y avait deux astronautes dans les Gemini. Frank Borman décédé en 2023, mission où pour la première fois les astronautes pourront retirer leur combinaison pendant leur vol et qui verra se réaliser une simulation de rendez-vous orbital avec Gemini 6 lancé quelques jours plus tard, les deux vaisseaux s'approchant jusqu'à 30 cm pendant les manœuvres. Puis, comme commandant de bord de Gemini 12 en janvier 1966 avec Buzz Aldrin, et on peut au passage apprécier les cadences de l'époque où le même astronaute pouvait participer à deux vols en moins de deux mois, par rapport à la progression actuelle des missions habitées qui se fait plutôt au rythme d'une tortue. Au cours de cette mission, malgré une panne de radar, ils réussiront à amarrer leur capsule à un module Agena afin de répéter les manœuvres qui seront indispensables aux futures missions lunaires Apollo. Mais c'est dans le cadre de ce programme que Jim Lowell se fera surtout connaître, là encore à deux occasions. La première fois en décembre 1968 à bord d'Apollo 8, la deuxième mission Apollo habitée, la première à être lancée par la fusée Saturne 5, et surtout la première à effectuer le trajet jusqu'à la Lune, donc à pouvoir admirer la Terre en entier, et effectuer une orbite lunaire, donc à observer de visu la face cachée, la veille de Noël 1968. C'est aussi pendant cette révolution autour de notre satellite que sera prise la photo historique du lever de la magnifique Terre bleue au-dessus de la surface grise désolée de la Lune, probablement à l'origine de la prise de conscience par l'humanité de la fragilité de notre planète. Par suite d'une erreur d'opération avec l'ordinateur de bord, Jim Lowell a provoqué une correction de trajectoire imprévue, les amenant à battre le record de distance d'un équipage avec la Terre, mais cette petite mésaventure aura eu sans doute un effet positif, car c'est en corrigeant manuellement la position réelle de leur vaisseau par rapport à l'observation des étoiles qu'il a sans le savoir réalisé l'opération qui lui sauvera la vie lors de sa mission suivante. En effet, il a été le premier astronaute à effectuer 4 vols dans l'espace, mais c'est à bord de la maudite, si j'ose dire, Apollo 13 qu'il effectuera son prochain trajet vers la Lune en 1970, en tant que commandant de bord. Je n'aurai pas le temps de détailler les péripéties de cette mission catastrophe à bord d'un vaisseau gravement endommagé par une explosion au début de son trajet vers la Lune et qu'une suite d'opérations invraisemblables ont permis de conclure par un sauvetage quasi miraculeux de l'équipage, manœuvre au cours desquelles les astronautes ont de nouveau battu le record de distance avec la Terre et le détiennent toujours. Je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent bien cette histoire à travers le film de 1995 de Ron Howard avec Tom Hanks dans le rôle de l'astronaute. Par contre, on sait moins que le scénario s'est inspiré du livre Lost Moon, The Perilous Voyage of Apollo 13 en anglais, qu'on peut traduire par La Lune perdue, le voyage périlleux d'Apollo 13, mais le titre français est simplement Apollo 13. Coécrit par Jim Lowell lui-même et le journaliste Jeffrey Kluger. Pour finir avec cette rubrique nécrologique, je ferai un petit point sur les équipages des missions Apollo qui disparaissent ces dernières années, fort logiquement vu leur âge avancé puisqu'ils avaient une trentaine d'années dans les années 1970, à l'époque de leurs exploits spatiaux. Sauf erreur de ma part, sur les 33 astronautes ayant composé les équipages des 11 missions Apollo habitées, seul survive encore David Scott, 93 ans, d'Apollo 9 et 15, Buzz Aldrin, 95 ans, d'Apollo 11 et deuxième astronaute à fouler le sol lunaire, Fred Hayes, 91 ans, qui était à bord d'Apollo 13 avec Jim Lowell, Charles Duke, un jeuneau de 89 ans, d'Apollo 16, pardon, et Harrison Schmitt, 90 ans, d'Apollo 17, la dernière mission ayant posé des Américains sur la Lune en attendant la future Artemis 3, dont l'échéance ne cesse de reculer au fil des échecs du Starship, dont on attend un nouveau test en octobre. Et parmi les 12 hommes ayant jamais foulé le sol lunaire, il nous en reste encore 4, Buzz Aldrin, David Scott, Charles Duke et Harrison Schmitt, le premier et seul géologue jamais envoyé étudier le sol lunaire.
Alors, autre actualité, Michel, Perseverance a-t-il découvert une preuve de l'existence d'une ancienne vie sur Mars ?
Alors, je rappelle à nos auditeurs que ce rover arpente la surface martienne et plus précisément le cratère G0 de 49 km de diamètre depuis février 2021. Et les médias se sont un peu enflammés lorsque la NASA a annoncé le 10 septembre dernier, je cite, « de potentiels signes de vie sur Mars ». En fait, elle mettait les projecteurs sur un article publié le même jour dans la prestigieuse revue scientifique Nature, au titre beaucoup moins sexy. Association minérale et organique gouvernée par des processus redox dans le cratère G0. Cette étude est basée sur des images prises en juillet 2024 d'un rocher d'environ 1 mètre, surnommé Cheyava Falls, dont la surface rosée est parsemée de taches claires blanchâtres de quelques millimètres, entourés d'une zone plus sombre, d'où par analogie leur surnom de taches de léopard, car rappelant très vaguement les motifs de la peau de ce félin. Et bien sûr, ces images sont complétées par l'analyse chimique à petite échelle de la composition de cette roche, permise par les instruments du robot martien. Pixel, un spectromètre à rayons X, et Sherlock, un spectromètre laser. Ces analyses suggèrent que des réactions redox, en clair d'oxydoréduction, se sont produites au sein de la roche après sa formation, ce qui pourrait constituer une biosignature, donc une trace de vie ancienne, car elle ressemble à des structures minérales analogues trouvées sur Terre et qui résultent d'une activité microbienne. D'où l'hypothèse d'un phénomène analogue sur Mars. Sauf que sur Terre, de mêmes structures existent sans aucune intervention d'organismes vivants. D'ailleurs, l'étude publiée dans Nature examine aussi d'autres hypothèses de formation par des processus purement géophysiques. Donc de nombreux spécialistes estiment que le raccourci de la NASA dans son annonce est plutôt malvenu.
Alors pourquoi cette annonce sensationnaliste de l'agence américaine ?
Alors je dirais qu'à défaut de prouver l'existence de vie sur Mars, l'annonce de la NASA prouve l'existence de Trump à la tête des États-Unis. Alors qu'on sait à quel point le président malmène le budget et les projets de l'agence spatiale, elle prend bien soin de rappeler que la mission Perseverance a été envoyée sous le premier mandat de Trump en juillet 2020. Et comme avec les analyses actuelles, les scientifiques ne peuvent pas conclure définitivement, elle suggère lourdement que seul le retour de l'échantillon prélevé de cette roche sur Terre permettrait de l'étudier avec tous les équipements nécessaires pour trancher le débat. Et comme par hasard, la mission Mars Sample Return, prévue pour nous rapporter les échantillons stockés par Perseverance, fait partie de celles remises en cause par l'administration Trump, au point d'avoir été carrément supprimée dans le projet de budget, gravement amputé, actuellement débattu par le Congrès. Donc il me semble qu'on peut soupçonner la publication de l'article et l'emphase donnée dans l'annonce de tomber à point nommé dans le calendrier politico-budgétaire qui doit décider des projets de la NASA.
Et la photo d'une planète en train de se former.
Alors je suppose que nos auditeurs connaissent les théories actuelles sur la formation des planètes autour des étoiles par accrétion progressive des matériaux résiduels après la formation de l'étoile qui, du fait de la rotation de l'ensemble, se condensent sous forme d'un disque qu'on nomme disque protoplanétaire. Et comme les planètes en formation prélèvent gaz et poussière dans ce disque le long de leur orbite plus ou moins ronde, la présence de ces planètes en formation se traduit par des lacunes circulaires dans ces disques. Comme ces disques sont plutôt froids en termes d'astronomie, c'est-à-dire beaucoup plus froids que les étoiles elles-mêmes, ils émettent de la lumière dans de grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle globalement infrarouge, ou micro-ondes quand leur longueur d'onde dépasse le millimètre, ou ondes radio au-delà de 30 cm. C'est donc logique que les premières images de disques protoplanétaires détaillés aient été produites par des radiotélescopes, notamment ALMA, hein, c'est Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, c'est-à-dire le grand réseau, sous-entendu d'antennes, millimétrique de l'Atacama, le plus grand réseau d'antennes du monde, européen, situé dans le désert d'Atacama au Chili à plus de 5000 mètres d'altitude, qui avec ses 66 antennes paraboliques de 7 mètres et 13 mètres de diamètre produit les images les plus fines de tous les radiotélescopes terrestres. Et notamment, en novembre 2014, un an et demi après sa mise en service, une image très détaillée d'un disque protoplanétaire autour d'une jeune étoile nommée HL Tauri, car elle se situe dans la région du Taureau, à environ 450 années-lumière de nous, dans lequel on distingue très bien les sillons circulaires indiquant la présence de planètes en train de se former. Mais les planètes elles-mêmes restent invisibles car trop petites et trop peu lumineuses dans ces longueurs d'onde. Cette image est devenue iconique pour illustrer la notion de disque protoplanétaire, par exemple sur la page Wikipédia sur ce sujet, où nos auditeurs pourront la voir. L'étape suivante consistait à réussir à faire apparaître une planète, et cela ne pouvait se faire que dans le domaine de l'infrarouge, de plus courte longueur d'onde, dans lequel émettent plus fortement la plupart des planètes en raison de leur température, comme la Terre, avec une moyenne d'environ 15 degrés en surface, ou une géante gazeuse comme Jupiter, dans les moins 100 degrés, car bien plus éloignée du Soleil, le genre de planète qu'on aurait le plus de chances de révéler à très grande distance, vu sa taille énorme. Mais on se heurte à une grosse difficulté, car dans l'infrarouge, la jeune étoile est incroyablement plus brillante que toutes les planètes qui peuvent orbiter autour d'elle. C'est un peu comme si on essayait de détecter la présence d'une petite luciole à côté d'un phare marin en étant situé à des centaines de kilomètres. La seule solution consiste à employer un coronographe, c'est-à-dire un dispositif qui va masquer l'étoile dans la lumière reçue par le télescope pour éviter l'éblouissement de la caméra qui pourra alors voir ce qui se trouve dans son voisinage, un dispositif analogue à celui utilisé pour masquer le soleil afin d'observer sa couronne, d'où son nom de coronographe. Cela a été réalisé pour la première fois en 2018 au VLT, le Very Large Telescope européen, lui aussi installé au Chili, avec l'instrument Sphère, dont j'ai déjà parlé en juin dernier. Il s'agit d'un spectroscope de très grande précision, conçu pour l'étude des exoplanètes, et comprenant un miroir déformable qui peut être modelé 1200 fois par seconde pour compenser les turbulences de l'atmosphère terrestre, déformant les images des objets célestes observés. Sur cette image de l'étoile PDS 70, très jeune, car âgée de seulement 5 millions d'années, soit presque 1000 fois moins que notre Soleil, et située à 370 années-lumière de nous dans la région du Centaure, on voit apparaître une planète comme un très petit point lumineux, alors qu'elle est plus grosse que notre Jupiter. Et c'est encore avec Sphère que vient d'être révélée une autre planète en formation, à peu près 5 fois la masse de Jupiter, comme une petite boule dans une lacune du disque protoplanétaire autour d'une jeune étoile, dont je vous épargnerai le nom, située à 430 années-lumière dans la région de l'Aigle. Comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas une première, mais je vous en parle car c'est de loin la meilleure image d'une planète en train de naître à ce jour, et nos auditeurs peuvent facilement la trouver, par exemple sur le site de Ciel et Espace qu'il a publié le 29 août dernier.
Allez, on est toujours en direct sur l'antenne d'O2 Radio. Voilà, une émission spéciale astronomie. Et on est avec Michel et divers invités qui vont s'exprimer tout à l'heure. Et là, Michel, en ce qui concerne votre 126e chronique, vous allez aborder la deuxième partie avec le ciel du mois.
Voilà, puisque nous avons des invités pour parler du jour de la nuit, je traite exceptionnellement cette rubrique avant et non à la fin de la chronique comme nous en avons l'habitude. Comme chaque mois, je renvoie nos éditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie » de notre site web www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel correspondantes, hein, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour octobre d'ici la fin de la semaine. L'été vient juste de se terminer avec l'équinoxe d'automne du 22 septembre. Mais avec le raccourcissement des jours, le soleil se couchant actuellement à peu près un peu après 19h30 et la nuit survenant dès 20h45, le ciel est encore majoritairement peuplé en début de nuit par les constellations de l'été, avec au sud les trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été, Deneb, la plus haute, Vega, la plus brillante et la plus à l'ouest, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives du cygne, de la lyre et de l'aigle. Si le ciel est assez noir, on peut distinguer le long du cygne de l'aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, nous conduisant vers le sud-ouest aux constellations bien reconnaissables du Sagittaire et du Scorpion déjà en train de se coucher. Et dans la moitié est du ciel, ce sont les constellations de l'automne, dominées par la figure de Pégase, le cheval ailé, bien reconnaissable à son grand carré presque vide d'étoiles, prolongé vers l'est par la double ligne d'étoiles d'Andromède, dans laquelle on peut distinguer la petite tache diffuse de la grande galaxie, l'objet céleste le plus lointain perceptible à l'œil nu. La lumière qui nous parvient en est partie il y a 2,5 millions d'années. Dans une simple paire de jumelles, elle apparaît déjà comme une petite tache elliptique, mais elle est bien plus impressionnante vue dans un télescope, comme ceux que mettront à votre disposition les astronomes pour le jour de la nuit. Sous Pégase, on peut reconnaître les poissons qui se présentent comme un grand V, et un peu plus tard se lève la baleine ou le monstre marin dans l'Antiquité, qui avec Persée au nord-est et plus haute vers le nord Cassiopée et Céphée, nous conte la légende mythologique d'Andromède. À la fin du mois d'octobre, la situation aura radicalement changé car nous serons repassés en heure d'hiver, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26. Donc un coucher de soleil bien plus tôt, vers 17h45, et la nuit survenant un peu avant 19h. Le triangle de l'été aura basculé complètement à l'ouest du méridien, avec Deneb presque au zénith en début de nuit, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, et le scorpion couché, alors qu'à l'est, la baleine sera déjà levée. Côté planète, Saturne commence à entrer dans une période d'observation plus favorable, puisqu'il est déjà levé en début de nuit, mais pour l'observer dans de meilleures conditions, il faut plutôt attendre un peu plus tard dans la nuit en ce moment, ou un peu plus tard dans le mois. Dans les télescopes, notamment le jour de la nuit, cette planète nous présente un aspect assez inhabituel, car comme elle se trouve dans la période de son équinoxe, qui n'intervient que tous les 13 ans environ, ses anneaux sont vus presque sur la tranche, donc difficilement perceptibles, et semblent disparaître progressivement jusque vers la fin novembre. Il n'y a pas d'autres planètes observables en soirée, car Jupiter ne se lève que vers 1h30, et ce sera 22h30 à la fin du mois, mais il faudra patienter au moins jusqu'à minuit pour l'observer dans de meilleures conditions, un peu plus haut dans le ciel. Pour sa part, Vénus n'apparaît le matin que vers 6h, environ 1h avant l'aube en ce moment, mais seulement une demi-heure en fin de mois, même si l'horaire reste le même en raison du passage à l'heure d'hiver. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant de ses planètes. Le soir du dimanche 5 octobre, donc dimanche prochain, une grosse lune gibbeuse, presque pleine, se rapproche de Saturne, à environ la largeur de 2 doigts bras tendus. Puis dans la nuit du lundi 13, un peu après minuit et demi, on verra le dernier quartier se lever avec la très brillante Jupiter. Et enfin le dimanche 19, c'est le matin, un peu après 6h30, qu'on pourra voir un très fin croissant accompagner le lever de la très brillante Vénus dans les lueurs de l'aube. Pour finir, le mois d'octobre nous donnera l'occasion d'apercevoir 2 comètes qui sont déjà observées depuis un moment par nos cousins de l'hémisphère sud. La première est C2025R2 Swan, parfois appelée Swan 25B dans les médias, qui a été découverte le 21 septembre, seulement un jour avant son passage au Périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, situé quand même à environ la moitié de la distance de la Terre. Cela signifie que son activité, le dégazage sous la chaleur du Soleil qui alimente sa queue, diminue depuis. Mais comme elle continue de s'approcher de nous jusqu'au 19 octobre, sa luminosité et sa taille continuent à augmenter. Sa trajectoire dans le ciel, qui la fait monter progressivement à l'ouest, devrait nous permettre de commencer à l'observer à partir du vendredi 10, donc idéalement pour le jour de la nuit du 11, mais dès le tout début de nuit, car elle sera encore assez basse. À noter que, comme toutes les comètes, elle a laissé derrière elle une traînée sale, si je peux dire, c'est-à-dire des petits débris qu'on peut voir comme des graviers perdus dans l'espace, et il se trouve que la Terre doit la traverser ce dimanche, le 5 octobre, ce qui pourrait nous valoir une belle pluie d'étoiles filantes. L'autre visiteuse est C2026-A6 Lemon, qui a été découverte bien plus tôt, puisque le A de son immatriculation indique la première quinzaine de janvier. En fait, c'était le 3 janvier, pour être plus précis. Elle continue à s'approcher de nous jusqu'au 21 octobre et ne passera au plus près du Soleil que le 8 novembre. Cela signifie que sa taille et luminosité ne cessent de croître et que si pour le moment on ne peut l'apercevoir qu'avec des jumelles ou un petit instrument, on s'attend à ce qu'elle devienne visible à l'œil nu début novembre, voire même dès la fin octobre. Sa trajectoire dans le ciel rend son observation un peu compliquée, hein, et nos auditeurs pourront se référer aux cartes que je mettrai sur mon site, www.constellationsetgalaxies.org. En ce moment, elle est dans le ciel le matin, entre les Gémeaux et la Grande Ourse. Vers la mi-octobre, elle apparaîtra à la fois le soir et le matin, sous les pattes de la Grande Ourse, mais plutôt basse. Et vers la fin du mois, on ne la verra plus que le soir, à l'est du Bouvier. C'est à ce moment qu'elle devrait être la mieux visible pour nous ce mois d'octobre, en attendant qu'elle devienne encore plus spectaculaire début novembre.
Allez, on est toujours en direct, on va le rappeler sur O2 Radio. Voilà, c'est la chronique Astro numéro 126, présentée et réalisée par Michel Favret. D'autres invités sont présents en plateau, on va parler de l'actualité. Mais là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique, voilà, autour des rendez-vous astro début octobre, avec la fête de la science et le jour de la nuit, bien sûr. Voilà,
avant de passer la parole à nos invités, je voudrais juste reparler de ces deux manifestations nationales. La fête de la science a été créée en 1991 par Hubert Curien, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2025, ce sera donc la 35e édition, avec pour thème « Intelligence ». Au pluriel, car sous toutes ses formes, comme bien entendu la fameuse IA, et comme chaque année, l'occasion de multiples animations partout en France, presque 7000 recensées sur le site, pendant la grosse semaine allant du vendredi 3, donc ce vendredi, au lundi 13 octobre, où l'on attend plus d'un million de visiteurs au total, dont un tiers de scolaires. Cette fête n'est pas spécifique de l'astronomie, mais de nombreux observatoires ou clubs d'astronomie y participent. Le jour de la nuit a été créé en 2009 par un collectif d'associations de protection de l'environnement. On en sera donc cette année à la 17e édition, pilotée par l'association Agir pour l'environnement, en partenariat avec d'autres structures, notamment l'AFA, l'Association française d'astronomie, à laquelle adhèrent la plupart des clubs d'astronomie, et l'ANPCEN, Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, dont font partie de nombreux astronomes amateurs. Sur une seule nuit, le samedi 11 octobre, l'objectif est d'alerter le public sur le problème de la pollution lumineuse et ses conséquences, notamment en demandant l'extinction des éclairages dans les communes participantes pour faire redécouvrir le ciel étoilé. Cette année, ce sont plus de 260 animations sur toute la France qui sont recensées sur le site de l'événement. Pour laisser justement nos invités parler de celles qu'ils ont prévues, je n'ai pas le temps de développer complètement cette question de la pollution lumineuse à laquelle j'avais consacré la chronique de septembre 2021, qu'on pourra réécouter sur notre site. Juste quelques rappels. Les astronomes sont particulièrement concernés par ce problème puisque nos éclairages excessifs dégradent la vision du ciel au point que la plupart des enfants résidant dans les zones urbaines n'ont jamais vu la Voie lactée et n'aperçoivent que quelques dizaines d'étoiles les plus brillantes, alors qu'à la campagne, ce sont des milliers qui se révèlent sur la voûte céleste. La vision du ciel étoilé et des constellations constitue pourtant depuis des millénaires un élément déterminant du patrimoine culturel de l'humanité, toutes civilisations confondues. Autant dire que dans ces conditions, l'observation au télescope d'objets pâles, comme des nébuleuses ou des galaxies, devient périlleuse, voire impossible, au point de devoir se déplacer de dizaines de kilomètres pour retrouver un ciel bien noir où elles se révéleront dans toute leur splendeur. Mais le problème de la pollution lumineuse n'inquiète pas que ses admirateurs du ciel, car il a de multiples conséquences bien terrestres. Sur la faune, par exemple la disparition de certains insectes nocturnes, ou le changement de comportement de certains oiseaux et mammifères. Sur la flore, avec par exemple la perturbation de la croissance des arbres en milieu urbain, car ils n'ont pas de vraies nuits pour se reposer. Et bien entendu sur les hommes eux-mêmes, dont la perturbation des rythmes biologiques peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Sans oublier le gaspillage énergétique que cela représente. Il existe pourtant des réglementations, comme la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, car faisant suite au débat du Grenelle de l'environnement organisé sous la présidence Sarkozy, complété par le décret du 12 juillet 2011 qui prévoit par exemple l'extinction des enseignes commerciales, des parkings vides ou des immeubles de bureaux. Pourtant, il n'est qu'à sortir au milieu de la nuit pour constater les innombrables infractions que constituent les enseignes, parkings, bureaux, usines et administrations, restant illégalement allumées en permanence.
Merci Michel, on va vous laisser vous reposer, façon de parler quelques instants. Voilà, chaque invité va pouvoir présenter l'association dont il est un membre très actif, et puis l'actualité bien sûr, notamment pour le jour de la nuit. Mais Michel, vous intervenez bien sûr quand vous voulez, vous êtes chez vous. Allez, de gauche à droite du transistor, comme disait le regretté Roger Couder. Donc Serge, voilà, rapprochez-vous du micro. Là on est dans le partage bien sûr des micros, donc rappelez-nous en quelques mots. Voilà, faut toujours rappeler en radio l'association d'astronomie Vega de l'Allier, l'observatoire de Vert, donc dans les grandes lignes, ce que vous proposez, j'allais presque dire, au quotidien, tout le long de l'année, façon de parler, mais je sais que vous êtes très très actif, et puis on fera un focus bien évidemment sur le 11 octobre, voir s'il y a d'autres jours, parce que le jour de la nuit c'est le 11, mais on peut organiser à d'autres moments. Donc en quelques mots, si vous deviez rappeler ce qu'est l'association, ses objectifs, ses missions.
Donc notre association Vega de l'Allier, qui est située au 5 Le Petit Drô, sur la commune de Vert, on est ouvert tous les samedis soirs de l'année, donc c'est pas au quotidien, c'est un hebdo, on est ouvert toute l'année, quelle que soit la météo. Quand il fait très beau, on observe à l'œil nu ou dans des télescopes qui sont posés sur le pré, ou sinon aussi dans le gros télescope qui est dans la coupole, parfois aussi dans une vieille lunette historique qui est en laiton, qu'on va mettre sur le pré. Donc c'est une lunette qui a plus d'un siècle, et dans laquelle on voit divinement bien les planètes, dont en ce moment on pourrait voir Saturne par exemple.
Voilà, quand je dis au quotidien, parce que vous êtes très actif, hein, bien sûr, hein, vous n'êtes pas forcément présent. Donc là, quand il y a des événements comme le jour de la nuit, on se doit, entre guillemets, d'organiser un événement pour être dans l'actu. Ce n'est pas une obligation, hein, parce sûr, vous êtes des passionnés, comme tous.
Pour rebondir sur le mot, on se doit, on ne se doit pas. Mais c'est notre passion, bien sûr, notre plaisir de proposer au grand public, des gens qui n'ont strictement aucune connaissance en astronomie, ça ne pose aucun souci. Ceux qui ont des
Ça permet de vulgariser, d'exprimer, de transmettre.
Voilà. Ceux qui ont des lunettes, il n'y a pas besoin d'avoir une superbe acuité visuelle pour pouvoir observer le ciel, c'est absolument faux. Voilà. Même avec des lunettes et des vues limitées, on peut voir, soit dans des télescopes, soit à l'œil nu. C'est-à-dire dans des télescopes, on met un œil, on regarde. Nous, on ne met pas beaucoup de science derrière. On peut expliquer parfois pour quelles sont les couleurs par exemple des étoiles ou des galaxies, comment ça peut naître. Mais notre but, c'est regarder, admirer, et aussi à l'œil nu, c'est-à-dire regarder les constellations. Dans le ciel, quand on regarde tous, on peut tous regarder le ciel du moment qu'en effet, on n'est pas trop gêné par la pollution lumineuse. Tous les petits points blancs, quasiment tous les petits points blancs dans le ciel, ce sont des étoiles, à différents stades de leur vie. Et les êtres humains de toutes les civilisations, de toutes les époques, ont eu envie de faire... d'imaginer des figures en mettant des traits qui n'existent pas. Et donc, on peut voir, par exemple, une grande ours, une petite ours. Et ça, on peut le faire sans aucun matériel, avec parfois un laser d'astronomie qui permet de mieux désigner les étoiles plutôt que le bout du doigt. Voilà. Donc, on peut faire l'astronomie de différentes manières. On peut en faire de manière un petit peu expliquer pourquoi il y a certaines couleurs dans le ciel, sans aucun matériel, juste rêver. Et aussi avec des télescopes plus ou moins gros ou des lunettes. Les télescopes peuvent être très, très modernes, ou des lunettes qui ont plus d'un siècle, dans lesquelles on voit divinement bien le ciel.
Alors sur le programme du 11 octobre, plus précisément, là vous avez parlé, voilà, c'est une synthèse, hein, parce que comme je sais que vous êtes passionné, on pourrait développer, mais pour le 11 octobre prochain, samedi 11 octobre...
Alors pour le samedi 11 octobre, on est en portes ouvertes, conformément à tout ce qui est l'objectif et la philosophie du jour de la nuit, c'est-à-dire l'accès gratuit sur tout le site de l'Observatoire, que ce soit sur le pré, à l'œil nu, comme j'ai dit, des télescopes ou dans le grand télescope de la coupole. À partir de 15h, on accueille le grand public. En famille, vous pouvez venir, entre amis, entre connaissances. À partir de 15h, vous allez pouvoir regarder le ciel, le soleil surtout. Le soleil, forcément, si la météo est coopérante, à travers des héloscopes, il n'y a aucun risque, même pour les très jeunes enfants, les parents ou les seniors. On peut voir le soleil, on peut expliquer certaines tâches, protubérances, qui après, suivant les cas, peuvent aussi donner les aurores boréales, qui sont très belles à regarder. Voilà. Donc toute l'après-midi, on regarde le soleil. En même temps, à destination des plus jeunes, il y aura un peu un stand sur l'initiation à l'astronomie, avec des dessins, le système solaire, mais aussi les plus grands, les parents, souvent, ils trouvent beaucoup d'informations, voilà. Ce sera Daniel qui nous fera cette animation-là. Et on aura Mika, un de nos jeunes astronomes, qui aussi animera un côté ciel à l'œil nu, avec plutôt le côté constellation, jumelles aussi, une autre facette de l'astronomie. Et ça, toute l'après-midi. Forcément, si vous avez un petit peu froid, il y aura un petit café qui sera là. Il y aura aussi de quoi se restaurer. Les glaces, ça dépendra de la météo. Et après, en début de soirée, quand la nuit tombera, vous pourrez observer le ciel donc à l'œil nu, avec les télescopes, dans la grande lunette en laiton historique, toute la soirée jusqu'à minuit. Vous pouvez venir nous rejoindre à partir de 15h, à 20h, à 17h, à l'heure qui vous convient et suivant ce que vous avez envie. Mais surtout, n'oubliez pas à vous couvrir, à mettre des chaussures, un petit bonnet, une veste dans la voiture. Ce serait très bien. Voilà. Comme les voitures peuvent être garées juste contre les télescopes, il n'y aura pas de problème pour y accéder.
Oui, Michel, je vous redonne la main. C'est bien, les conseils, on en reparle toujours à la fin, mais c'est bien anticipé. Michel, vous voulez compléter ?
Oui, non, mais c'est par rapport à ce que dit Serge. Effectivement, ceux qui n'ont pas l'habitude de rester la nuit dehors pour observer ne savent pas à quel point il peut faire froid. Et on a l'habitude de dire en astronomie qu'il faut s'habiller avec une saison de différence. C'est-à-dire que là, on est au début de l'automne, il faut s'habiller comme en plein hiver, presque comme pour aller faire du ski, parce que la nuit, il fait très très froid. Quand j'ai pris ma voiture ce matin, il faisait 5 degrés.
Voilà, mais ça fait partie des bons conseils. Non, mais c'est bon. Et puis, c'est vrai que là, la voiture, pas très loin, on peut avoir, si l'après-midi, on sait que les températures, voilà, il peut faire soleil, mais on laisse les vêtements chauds dans la voiture et puis il y a de quoi se réchauffer. Hein.
Voilà.
Vous avez cité le petit café.
On vous demande d'amener les vêtements, n'oubliez pas de les amener pour vous, mais par contre, les infusions, l'été, les cafés, les chocolats, ça, on s'en occupe.
Bonne précision. Allez, on continue, donc Thierry, un petit peu, ça va être un petit peu les mêmes questions, bien évidemment, à chacun, mais avec votre singularité propre. Donc, la Société astronomique de Bordeaux, la SAB, quelques mots, et puis ce que vous organisez ce jour-là, où des fois il y a des événements en amont, après coup. Alors, Thierry, rappelez-nous. Hein.
Alors, la SAB, c'est, on fait beaucoup moins d'observations que Vega Dalir, on participe à de Boudegain, Festival du Soleil, mais on n'est pas aussi intensément observateur qu'à j'ai tant de droit. Par contre, on organise des cycles de conférences à peu près, au rythme d'à peu près deux fois par mois, hors vacances scolaires. Et on a la chance à Bordeaux d'avoir des gros laboratoires d'astrophysique et des chercheurs, des doctorants et des post-docs qui viennent avec une grande simplicité nous parler de leurs travaux. C'est des conférences qui sont libres et gratuites et qui s'adressent surtout à des publics qui ne sont pas des spécialistes. Et je salue là l'effort des chercheurs qui font vraiment un effort de pédagogie très important et qui captivent vraiment le... Donc, d'ici la fin de l'année, on a encore 6 conférences prévues. Donc ça, c'est un peu le cœur de métier de la SAB. Et on développe depuis plusieurs années maintenant des interventions auprès des écoles, des médiathèques, sur vraiment la médiation de base sur l'astronomie. Donc on a un certain nombre d'expositions, d'ateliers qui peuvent être mis gratuitement, encore une fois, à disposition donc, de ces établissements. Et on a des animateurs qui viennent présenter ces activités aux jeunes. Alors ça s'adresse au primaire, mais ça peut aussi être en collège ou en lycée. Et donc on ne va pas participer au jour de la nuit.
Ah bon ?
Non, non. Parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que nous.
Oui, et puis vous avez d'autres activités.
Enfin, voilà, mais... on a d'autres activités. Par contre, on va être présent pour la fête de la science. Je ne sais pas si je vous en parle tout de suite. Ou si
on... N'hésitez pas, parce que là, voilà. On va essayer de gérer le temps que chacun puisse exposer. Donc, allez-y, c'est l'actualité. Hein.
Voilà. Donc ça fait la quatrième participation qu'on fait. Cette année, on a choisi comme thème beauté céleste. On n'est pas en lien avec le thème national de l'intelligence.
Ah bon?
C'était un peu...
Non, mais vous l'avez adapté, bien sûr. Oui.
Donc on a dit carrément, on se détache. Et on a choisi donc 15 photographies réelles.
D'accord.
Prises par les télescopes spatiaux, mais aussi depuis les télescopes terrestres. Et tu as parlé d'une photo de la levée de la Terre. Donc c'est 15 photos réelles, ce n'est pas des vues d'artistes, et on a essayé de présenter, à travers ces 15 photos, toute la diversité, la beauté du cosmos, les différentes composantes de soleil, des étoiles, et tout ce qui peuple en fait notre univers.
Pour la date
le 4, samedi 4 et dimanche 5 octobre,
d'accord.
L'après-midi de 14h à 18h30, ce week-end.
Très bien.
Entrée libre, ça se passe à l'hôtel des sociétés savantes, tout à côté du parc, du jardin public, côté du muséum d'histoire naturelle. Voilà.
Très bien, je ne sais pas si vous le complétez. Après, on va revenir en fin de dernier tour, ne serait-ce que pour rappeler. Après, on sait très bien que si on a besoin d'infos, allez chercher un site internet, les réseaux sociaux, mais comme ça, vous pourrez chacun compléter.
Oui, juste pour.
Voilà, mais je vous en prie, allez-y, bien sûr.
Pour les conférences, vous avez toute l'information sur notre site. Vous tapez Société Astronomique de Bordeaux, et c'est une adresse un peu compliquée. Vous tapez à la Société Astronomique de Bordeaux et vous avez donc le planning des 15 des conférences à venir. Voilà.
Très bien. Allez, même question, Joël. Donc Joël Vallée pour l'association Astronomie Géant 33, AG 33. Donc faut toujours rappeler en quelques mots. L'association, même si on voit dans quel secteur, dans quel domaine, bien sûr, vous êtes très actifs. Mais en quelques mots, et puis on va aborder l'actualité, bien sûr, propre à votre association.
Alors moi, quand je vais vous dire bonjour, je suis très heureux de représenter AG 33. Je dirais que c'est un très très bon club, avec une présidente très active. Quel que soit sur les conférences, ou que ce soit, je dirais, donc sur le terrain, au niveau donc, observation. Et elle vous invite, samedi 4 octobre, de 10h à 18h, donc à Saint-Médard-des-Rangs, pour la fête de la science. Donc surtout, venez nombreux, puisque donc, vu les horaires 10h-18h, vous aurez ce plaisir de rencontrer cette présidente avec tous ses adhérents.
Et toute l'équipe, dont vous, bien sûr.
Bien sûr.
Et c'est bien de rendre hommage, je sais bien.
Exactement. En plus, donc, elle a plusieurs, au niveau de cette association G33, qui accueille donc, le public pour leur faire partager de façon ludique la science sur toutes ses formes. Que vous soyez donc, un jeune explorateur en herbe ou un adulte curieux, de nombreuses animations vous attendent pour stimuler votre esprit, éveiller votre curiosité. Des ateliers interactifs, en passant par des expériences ludiques et des rencontres avec des scientifiques passionnés. La fête de la science est l'occasion de rêver, de comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Venez manipuler, observer, questionner et surtout vous amuser. C'est une opportunité unique qu'AG33 vous permet de découvrir de manière accessible et divertissante et de susciter des vocations chez les plus jeunes. Puis ce seront deux animations, si je peux continuer le jour de la nuit,
bien sûr, oui.
Que nous donnerons le vendredi 10 octobre à Martillac, donc route du Haut-Noguet, et le samedi 11 octobre à Socat, sur le pré communal. Les deux animations débuteront dès 20h30, observation du ciel, planétarium, découverte de la faune nocturne. Là aussi, des passionnés seront présents pour vous montrer que la nuit noire a aussi son charme et recèle bien des beautés cachées. La planète Saturne sera sans conteste la reine de la soirée. En cas de mauvais temps, on prévoit tout. Donc, aucune de ces trois animations ne sera annulée. Des replis donc, sous couvert sont prévus et même une conférence sera donnée à Martillac à la salle de spectacle. Même le beau temps est commandé, donc aucune inquiétude. Nous sommes tous passionnés et motivés.
Bravo, Joël. Vous avez commandé le beau temps pour tout le monde ou uniquement pour...
Non, pour tous les clubs. Donc, en tant que passionné, c'est pour tous les clubs, quels qu'ils soient.
Voilà, c'est bien de le prendre avec le sourire, surtout quand il y a des salles de repli. Mais c'est vrai que la météo peut s'immiscer. Donc là, vous avez l'habitude d'organiser. Donc... Sur cette période-là, en général, c'est quoi la météo? Après, il n'y a pas... Non, mais je parle en l'ensemble. Quiconque veut répondre, vu que vous avez l'habitude d'organiser sur cette date-là, en solution de reprise, certes, mais en général, c'est quoi le temps? Parce que là, on est l'automne qui est déjà là. Donc, on anticipe, bien sûr, après, dans une certaine mesure. Donc, vêtements chauds dans la voiture.
Tout à fait, les vêtements chauds, c'est important.
Pour les cafés, on a compris. Là, voilà. Il y a toute l'équipe
et qui
avait
le chocolat.
Sourire. Oui, vous faites bien de tout annoncer. Voilà. Donc ça, par rapport à la météo, parce qu'on en sourit, mais c'est un facteur important. Ça peut peut-être empêcher un certain public de venir. Les passionnés viendront.
Justement, il ne faut surtout pas attendre que le ciel soit totalement bleu de partout. Bon. Bleu ou sans nuages, plutôt. Nous, on ne regarde que comme les yeux humains, donc dans la longueur d'onde visible des yeux. Et ce qui est important, c'est que si, par exemple, on veut vous montrer une nébuleuse planétaire ou des galaxies ou d'autres objets célestes, il n'y en a pas qu'un seul dans le ciel. On sait aussi vous en montrer d'autres dans d'autres parties du ciel qui ne sont pas gênées par les nuages. Donc ça, c'est très important.
Donc quoi qu'il arrive...
Voilà, vous pouvez venir nous voir. Si finalement il ne fait pas beau, ben, on vous parlera d'astronomie. On fait aussi certains samedis soirs, comme le samedi soir 8 novembre. Le sujet, ce sera une petite conférence très, très accessible à tout le monde, qu'on soit bien clair. Le thème sera sur les trous noirs, mythes, mystères ou réalités. Donc je vous présenterai cette conférence pour un petit peu mettre des termes scientifiques tels que c'est connu actuellement, bien sûr, sur ce que sont les trous noirs astronomiques. Voilà. Enlever quelques idées reçues, quelques croyances, quelques peurs aussi, parce que là-dessus aussi, la science et les observations ont bien évolué. Voilà. Donc c'est important qu'il fasse beau ou pas beau, on peut observer, on peut discuter. On a aussi notre facette à l'association astronomique Vega de la Lyre, de l'Observatoire de Verre. C'est pour ceux qui en ont envie, et uniquement pour ceux qui en ont envie, parmi nos membres, s'ils veulent apprendre à utiliser un télescope, que ce soit le leur ou celui de l'association, on fait des formations certains samedis après-midi, donc le 8 novembre, voilà, des formations pour apprendre comment installer de manière simple. C'est pas un cours en tant que tel, on est 4-5 personnes,
oui,
et on fait de manière pratique.
Des voilà. Conseils judicieux.
Certains n'ont pas envie, il n'y a pas de problème, ils bien regardent dans les télescopes qui sont posés, et certains qui ont envie d'aller au-delà, d'apprendre, mais on transmet ce que l'on sait de manière pratique et de l'expérience. Toutes les erreurs qu'on a faites, on vous les transmet. Et Dieu sait s'il y en a.
Pour ne plus les faire. Bien sûr. Merci Serge. Bonne intervention aussi. Mais là, tout est pertinent. Michel voulait compléter ou apporter d'autres,
oui,
d'autres infos.
Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disaient Serge et Joël à propos de la météo. Bon, déjà, la météo, malheureusement, elle est toujours un peu imprévisible. Hein. En général, on est fixé 48 heures avant sur ce que sera l'état du ciel. C'est sûr que pour observer des objets célestes, il faut que le ciel soit le plus transparent possible, hein, pour nous. Maintenant, comme le disait Serge, s'il y a quelques nuages un petit peu épars dans le ciel, c'est pas forcément très grave, puisqu'on peut choisir de viser là où le ciel est clair, puisqu'il y a des objets un peu partout à observer dans le ciel. Pour la particularité du jour de la nuit, donc soit le vendredi, soit le samedi 10-11, il faut savoir aussi, moi j'avais regardé aussi pour mon club, que la Lune va se lever assez tôt. Donc la Lune, elle, peut s'observer même s'il y a un léger voile nuageux. Elle est tellement brillante qu'on arrive à l'observer à travers, disons, une fine couche de nuages. Donc tout n'est pas perdu, même si le ciel n'est pas formidable, quoi. Et puis bon, annuler une soirée d'observation astro parce qu'il y a mauvais temps, c'est pas un drame non plus.
Peut arriver néanmoins, une météo peu favorable. Après, il peut y avoir des solutions de repli, à contre-cœur, bien sûr.
Ça nous est déjà arrivé d'annuler quand le ciel est vraiment trop mauvais, parce que contrairement à Vega de la Lyre, entre autres, avec son observatoire, moi, dans mon club, je dispose d'aucun local. Donc, s'il n'y a rien à observer dehors, il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire une conférence ou autre, ce n'est pas possible. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour nos éditeurs qui s'intéressent un petit peu à cette question de la météo par rapport à l'astronomie, je leur conseille d'aller voir sur Wikipédia la page qui concerne un certain Le Gentil, qui était directeur de l'Observatoire de Paris au XVIIIe siècle et qui est parti jusqu'en Inde pour faire une observation astronomique. Et vous verrez à quel point il a eu des mésaventures bien, bien, bien plus graves que simplement ne pas pouvoir regarder le ciel dans une lunette.
Bien sûr, bien sûr.
Maintenant, par rapport à ce que disait Joël d'AG33, il nous a beaucoup parlé des animations prévues pour le jour de la nuit, la fête de la science. Mais comme, si je ne me trompe pas, hein, un petit peu comme Vega Dallier, je crois qu'AG33 fait des observations pratiquement toutes les semaines, ouvertes au public. Il faudrait même, le rappeler quand même.
Même, je dirais, Corinne, motivée comme elle est, des fois dans le milieu de la semaine, elle nous convie donc, à faire des soirées donc, à la ferme de Richemont, à Socat. Et c'est vrai que c'est le bon endroit pour faire de belles observations. Il y a très peu de pollution.
Et je crois que c'est tous les samedis soirs ou tous les vendredis, je sais
jamais. Oui, même dans le milieu de la semaine, elle nous envoie des petits messages. Si vous êtes disponible, bienvenue, je suis là-bas sur le terrain et c'est un plaisir de passer la soirée ensemble.
C'est la passion, bien sûr. Alors juste avant que chacun puisse dire un tout dernier mot, peut-être rappeler ou avoir les infos, site internet et autres. Donc on a donné quelques conseils. Il y a un site, je crois, hein, Michel, pour référencer. Parce que là, bien sûr, là c'est bien parce qu'on a des zones géographiques distinctes et variées, mais quelqu'un qui nous écouterait hors Gironde ou hors Dordogne. Il y a un site qui référence.
Il y a un site Fête de la Science, il y a un site Jour de la Nuit qui référence.
Donc spécifique à ces deux événements.
Mais comme je l'ai dit dans ma petite présentation, le Jour de la Nuit, ce n'est pas que de l'astronomie. Hein, on va trouver des manifestations. Il y a aussi des clubs nature qui vont sortir la nuit pour entendre, par exemple, les animaux qui circulent, etc., observer des papillons de nuit, des chauves-souris, des choses comme ça. Il n'y a pas que l'astronomie, hein, ce n'est pas une manifestation spécifique à l'astronomie, contrairement par exemple aux nuits des étoiles que tout le monde connaît bien
au mois d'août. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, un petit dernier tour chacun, ne serait-ce que si vous avez oublié, parce qu'il y a une richesse, et bien sûr, dans vos propositions, mais au moins, ou avoir l'info, je vous en prie. Rapprochez-vous du micro, par contre.
Je vous invite à aller sur notre site qui est vraiment tenu à jour très régulièrement.
Donc pour la SAB, Société Astronomique de Bordeaux.
Vous avez effectivement le programme de toutes les conférences, toutes les activités qui sont prévues. Et c'est vraiment une source d'information très importante pour nous.
Bien sûr, ça permet de mieux connaître l'association, voilà. Les différents rendez-vous. Un dernier mot, Thierry, vu que l'on est sur la conclusion. On n'a jamais tout dit, même si je crois que l'essentiel a été quand même précisé.
Ce que j'invite vraiment, c'est à venir voir l'exposition Fête de la Science. C'est, à mon avis, une belle exposition avec des images que tout le monde a plus ou moins déjà vues, mais dont on ne connaît pas forcément la pertinence et ce qu'elles racontent. Donc nous, on essaie de faire cet effort d'expliquer un peu ces images.
Très bien, merci Thierry. Joël Vallée, soit redonner pas toutes les infos, bien sûr, site internet, parce que je vais de temps en temps, je peux pas tout voir, bien sûr, mais les sites internet, ben il y a toutes les infos,
c'est
avec
vrai,
de belles images, c'est vraiment mis en valeur. Hein.
C'est vrai que Corinne, pour ça, elle sait faire vivre donc sa passion avec la grande motivation dont elle dégage. Et le rendez-vous, c'est vrai qu'à G33, on peut aller sur son site, il y a toutes les informations et elle est en permanence. Donc elle répond bien donc, aux questions que l'on peut se poser.
Très bien, merci à vous Serge pour ce qui est en ce qui concerne les outils de communication.
Alors, les outils de communication, donc,
comme tout le monde, donc, site internet, réseau,
pour sociaux. Venir à l'association astronomique Vega de la Lyre, l'observatoire de Verre, il n'y a pas besoin de réserver. Forcément, si vous êtes 10 personnes, autant nous passer un petit coup de téléphone
avant. Oui, si en groupe, un petit peu conseillé. Voilà, c'est tant mieux d'ailleurs. Voilà, mais
c'est très bien, ça arrive.
C'est pour le café.
Voilà,
hein,
si vous venez à 2 ou 4, vous pouvez nous appeler avant ou un petit mail, vega.lire.ver@gmail.com. Un petit coup de téléphone à notre secrétaire pour nous dire que vous venez, nous poser 2 ou 3 questions. Il n'y a aucun souci, venez en toute simplicité, comme vous êtes. Pour voilà. Parodier une certaine
publicité. Oui, tout à fait. Moi, je le cite des fois, je paraphrase aussi.
Donc on n'est pas très adepte.
Merci Serge. Michel, en conclusion, donc, il va nous rester 1-2 minutes avant que se quitte en musique. Déjà, peut-être à renoncer la prochaine chronique. Est-ce qu'on s'est calé, Michel?
J'ai oublié. Bon. Je crois qu'il doit y avoir un mercredi qui est vers la fin octobre. Il me semble qu'on avait dit qu'on se recalait à la fin du mois.
Voilà, on va se caler. Je ne voulais surtout pas vous piéger parce que ça, on s'adapte aussi. En général, le rendez-vous, c'est le dernier mercredi du mois. Bon, là, vous voyez, on est l'exception. En même temps, 1er octobre, c'est le premier jour. Donc, en conclusion, ça, on reverra ensemble. Il n'y a pas de souci, bien sûr, Michel, pour le prochain rendez-vous.
Ben autrement, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'il faut surtout espérer, c'est avoir une bonne météo. Quoi.
Bon. Donc, il y en a qui l'ont commandé, il y en a qui prient. Chacun a ses moyens. On en reste là, Michel, pas d'autres informations
Non, j'ai pas.
Bon. En même temps, vous en avez déjà décliné quelques-unes.
Comme je l'ai dit, je crois, dans un détour de la chronique, on s'attend à ce qu'il y ait un nouvel essai du Starship au mois d'octobre. On va voir s'il se débrouille mieux que les essais précédents, parce qu'on n'est pas prêt d'aller sur la Lune tant qu'il ne fonctionnera pas correctement. Et puis, ben, on attend ces deux belles comètes, hein, parce que Serge disait que la vedette de la soirée, ce serait Saturne. Mais
il a dit, oui.
En tout début de nuit, il y aura peut-être une belle comète dans le ciel du côté de l'ouest. Et la deuxième, qui arrivera plutôt fin octobre, donc trop tard pour le jour de la nuit, devrait être encore plus belle, normalement. Donc, octobre sera peut-être un mois favorable aux comètes. Et j'oublie pas que l'an dernier, à la même époque, malheureusement, j'étais à l'hôpital et vous aviez fait l'émission sans moi. Mais à peu près à la même période, on a eu de très belles aurores dans le ciel, ce qui est assez exceptionnel pour notre région, hein, le sud-ouest, très basse en latitude. Hein, on a l'habitude d'avoir des aurores plutôt en Scandinavie. On n'est pas à l'abri que ça puisse recommencer, hein, puisqu'on a des longues nuits, donc c'est favorable pour voir des aurores dans le ciel quand le ciel est noir, bien sûr. Et il ne faut pas oublier que le soleil est toujours dans sa période de forte activité. Hein. Serge parlait d'observer le soleil le samedi après-midi. J'ai vu récemment des images du soleil, il y a pas mal de taches dessus, ce qui montre qu'il est très actif. Et plus il est actif, plus on a des chances de voir des aurores. Donc peut-être, ça ce serait la surprise, des aurores en octobre et deux belles comètes.
Allez, on en reparlera. En tout cas, merci à tous les quatre et puis tous les membres de vos associations respectives que vous représentez. On repartagera bien évidemment via les réseaux sociaux. Allez, donc merci à vous Michel Favre, Serge Gratadou, Antti Régelas, Joël Vallée. Merci à Nicolas pour la présentation des brèves et à la régie technique.